Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo à une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Nous parlons à présent du cancer du sein, comment prévenir, mieux lutter contre ce cancer. Docteur Beto, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi le cancer du sein?
Bon, le cancer du sein, comme vous le dites, c'est... En fait, c'est une tumeur. Hein. C'est une tumeur maligne. C'est comme tous les cancers qui intéressent tous les organes de notre corps. Le sein aussi peut développer un cancer. Donc, c'est tout simplement une tumeur maligne qui est méchante. Un cancer qui a des conséquences parfois dramatiques.
Oui. Donc c'est une tumeur maligne, qu'est-ce que cela veut dire?
Ça dit que c'est un cancer, parce que nous faisons la distinction entre tumeur bénigne et tumeur maligne. La tumeur bénigne, c'est une tumeur qui n'est pas maligne, ça veut dire qui n'est pas méchante, qui n'est pas un cancer. Comme par exemple dans le sein, il y a des fibroadénomes. Ça, ce sont des tumeurs bénignes. Donc nous faisons la distinction. Pour tous les organes, tout ce qui est bénin, c'est non cancéreux. Tout ce qui est malin, c'est cancéreux.
Voilà, tout ce qui est malin, c'est cancéreux. Et comment ce cancer se développe au niveau du sein?
Bon,
le processus de développement de la maladie.
Bon, vous savez, en fait, cette question revient à répondre à une autre, c'est-à-dire les causes. Hein. Il faut dire qu'on ne sait pas les causes. Jusqu'à présent, l'étiologie principale ou les primes mauvaises du développement d'un cancer n'est pas encore connue, raison pour laquelle il y a des études partout à travers le monde. Jusque là, il y a des associations de cancers pour pouvoir déterminer la cause. Hein, il y a plusieurs facteurs. Ça dépend de tous ces cancers. Les cancers ne se développent pas de la même façon chez toutes les femmes. On peut avoir une boule au niveau du sein de la femme.
Mm-hmm.
Mais toute boule ne veut pas dire cancer. On peut avoir des microcalcifications. En fait, ce sont des toutes petites boules qui sont au niveau du sein. Et ça, c'est diagnostiqué à partir de la radiologie que nous appelons la mammographie. Alors, tout dépend. Il y a des signes d'appel, des signes qui peuvent nous orienter vers le cancer. Hein? Il y a des modifications sur le plan de l'inspection au niveau du sein.
Mm-hmm.
La couleur du sein, la peau d'orange, il y a des rétractions mamelonnaires, donc au niveau du sein. Il y a une augmentation, il y a parfois des signes d'inflammation au niveau du sein, c'est-à-dire la chaleur, la rougeur et tout ça. Tout ça, ce sont des signes qui nous orientent un peu vers cette pathologie.
Voilà. Donc, ce sont là les signes. Alors, quels sont les facteurs de risque du cancer du sein?
Bon, pour l'instant, il y a plusieurs facteurs qui sont cités. Vous savez, en science, en médecine, lorsqu'il y a plusieurs éléments, plusieurs hypothèses, il n'y a aucune qui est la bonne. Donc, tous ces facteurs sont retenus.
Oui.
Il faut dire ceci que ce cancer se développe davantage ou plus dans les pays développés. On trouve plus le cancer de sein dans les pays développés que dans les pays moins développés.
Pourquoi? C'est dû à l'alimentation, au mode de vie ou à quoi?
Les auteurs, les chercheurs pensent que c'est l'environnement. Il y a des facteurs environnementaux qui peuvent influer sur la survenue des cancers. Parce que si vous prenez les pays en voie de développement, ou si vous prenez, je vous donne l'exemple, une dame qui vient du Japon ou de l'Asie, où le cancer est moins fréquent, et qu'elle émigre vers les États-Unis ou l'Europe dans les pays occidentaux, où le mode de vie est développé, ces femmes, on a constaté que ces femmes développaient un peu plus de cancer que lorsqu'elles restaient chez elles. Donc, il y a ces facteurs environnementaux qui sont là. Mais les facteurs les plus importants, il y a les facteurs héréditaires, les antécédents familiaux des cancers. Ça, lorsque dans une famille, il y a une dame, une femme, maman, sœur, tante ou quoi, qui a développé un cancer, le reste de la progéniture, c'est-à-dire du côté féminin, ont plus de chances de développer un cancer de sein que dans les familles où il n'y a pas de... Parce que c'est dans ce groupe-là qu'on a trouvé qu'il y avait un facteur très important, c'est une certaine mutation au niveau des gènes. Hein? Au niveau des chromosomes, il y a des gènes qui sont mutés, qui sont anormaux.
Oui.
On appelle ça le gène BRCA1 et A2. Alors, en ce moment, ces femmes-là sont sujettes à faire des cancers. Et les risques développés, on parle d'un risque de 2 à 4 fois plus que les femmes qui n'ont pas d'antécédents de cancer de sein dans la famille.
Oui. Docteur Isidore Betou, quelle est la situation du cancer actuellement, du cancer des seins chez la femme dans notre pays?
Bon, je ne saurais pas vous le dire d'emblée parce qu'il y a une association actuellement qui s'occupe des cancers d'une manière générale, de tous les cancers, de tous les cancers intéressant le corps humain. Et cette association est dirigée par un éminent confrère, je crois le docteur Soulou, qui s'occupe de ça. Je crois qu'il faut un recul, qu'il y ait des études pour pouvoir avoir des statistiques fiables dans notre pays. Donc, pour l'instant,
on peut retenir que c'est le cancer et du sein est une tumeur fréquemment rencontrée chez les femmes actuellement dans notre pays.
On en trouve de plus en plus, mais moins qu'en Europe.
Moins
qu'en Europe, parce que ces cancers se développent, vous savez, la moyenne d'âge pour ces cancers, c'est plus, tourne autour de 60 ans, entre 60 et 65 ans. C'est vrai qu'il y a des cancers chez les jeunes femmes, mais c'est moins fréquent qu'en Europe.
Bien. Nous avons un auditeur en ligne, Sigui Bassia, il nous appelle de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Sigui, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question?
Je voulais demander à l'invité qu'il me donne les symptômes ou les signes qui vont se figurer pour prouver réellement qu'on a le cancer du sang. Et la deuxième question est la celle-ci. Qu'est-ce que vont nous faire pour éviter ces cancers?
Merci, Sidi.
Voilà, docteur Isidore Betou. Oui, pour la première question, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a certains signes qui nous orientent vers le cancer du sein, vers une tumeur maligne. C'est-à-dire quoi? Habituellement, les seins, la femme connaît l'aspect de ses seins. Mais parfois, elle peut remarquer lors de sa toilette, lors de ses soins, qu'il y a une boule au niveau du sein. Une boule. J'ai dit boule entre guillemets, parce que nous utilisons un terme technique, une tumeur. Une boule, ça c'est déjà un signe. Mais attention, parce que toute boule au niveau du sein ne veut pas dire cancer. Parce qu'on peut avoir un kyste au niveau du sein, on peut avoir, ça se présente aussi sous forme d'une boule, on peut avoir un fibroadénome, c'est-à-dire c'est comme le myome qui se trouve au niveau de l'utérus. Donc, premier signe, on peut avoir une boule. Deuxième signe, on peut avoir une rétraction mammaire. C'est-à-dire, si je peux m'exprimer en lingala, libelle bendani, salimwanzela. Ça, c'est un des signes. On peut avoir, ça c'est plus patent, ce que nous appelons la peau d'orange. Vous voyez comment se présente l'orange. Jaune avec des petites dépressions, des petites boules. Ça c'est un signe. On peut avoir une tumeur, effectivement, qui lorsque elle est avancée, on peut déjà voir une sorte de plaie au niveau du sein, au niveau de cette boule-là. Il y a les changements de couleur. Parfois c'est très rouge, et c'est très chaud. Ça, ce sont des signes qui peuvent nous orienter vers le cancer.
La deuxième question. La deuxième question, c'est ça pour prévenir le cancer du sein.
Ah oui, ça, c'est au fait que le sujet de ce jour.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que pour prévenir le cancer du sein, c'est pas comme la malaria, où on peut donner la quinine pendant un certain temps pour pouvoir prévenir le cancer du sein. Non, on ne sait pas à quel moment ça commence. La meilleure prévention consiste à faire le dépistage. C'est-à-dire, plus tôt le cancer est découvert, mieux c'est, et c'est traité très rapidement. Au lieu d'attendre lorsque la tumeur est déjà avancée, avec le métastase, là, le traitement devient un peu plus compliqué parce qu'il y a au moins 4 traitements.
Par exemple, docteur, il y a certaines tumeurs qui ne se manifestent pas, et c'est lorsqu'elle avance elle suffisamment, et puis vers la fin, bon, elle fait son apparition.
Raison pour laquelle la prévention consiste à faire les dépistages. Et ces dépistages, sous d'autres cieux, dans les pays développés, à partir de 35 ans, une femme doit voir le sénologue ou le gynécologue une fois par an. Une fois par an pour les dames qui ont des antécédents familiaux de cancer. Deux fois, tous les deux ans pour ceux qui n'ont pas des antécédents. Et cette consultation, ce dépistage consiste en quoi ? À un examen clinique par un sénologue qui va examiner, inspecter et examiner le sein. Deux, à faire une échographie pour voir s'il y a une tumeur, une boule qui est là-bas et quel est l'aspect échographique. Parce que l'aspect d'une tumeur maligne d'un cancer est polymorphe. Il y a quand même des images, un aspect qui nous oriente vers les cancers du sein par rapport à d'autres boules.
Mm-hmm. Il y a docteur, on aura bien tout à l'heure le temps d'accueillir Nzanzu qui nous appelle des Bénis au Nord Kivu. Nzanzu, bonjour.
Bonjour, Jedi Kachama. Bonjour, Radio Kapi.
On vous écoute.
Voilà ma proposition, ma question, elle est la suivante. Moi, je voudrais savoir, selon les estimations du ministère de la Santé, tout froid démocratique du Congo, si jamais on vit à côté, soit aux côtés de la maman qui en souffre, quelles sont les attitudes à prendre vis-à-vis de cette personne qui a souffert?
Vous vivez à côté d'une maman qui souffre du cancer de sein, quelle attitude avoir, vous dites?
Oui, c'est juste ça. Mmh. Mais aussi, selon les informations du ministère de la Santé, combien bien en souffre?
Merci, docteur Isidore.
Oui, vous savez, comme pour toutes les maladies, hein, même pour actuellement la pandémie qui sévit à travers le monde, je crois que nous devons avoir une attitude positive. Ce n'est pas seulement le ministère de la Santé, parce que la femme ne vit pas avec les ministres, ne vit pas au niveau du département, au niveau du ministère de la Santé. Il vit avec un entourage, sa famille d'abord, ses amis et tout consort. Donc c'est toutes ces personnes-là qui doivent avoir une attitude tout à fait positive et non une attitude dirigée à l'endroit d'une personne qui souffre du cancer de sein. Il faut l'accompagner. Sous d'autres cieux, la politique prise, mise en place par les gouvernements de ces pays où sévit le cancer du sein, c'est de les accompagner par une équipe de psychologues qui prennent ces femmes en charge. Parce que vous savez, le cancer du sein amène à une mastectomie. Une mastectomie, c'est quoi? C'est enlever le sein. Et vous savez ce qui représente le sein pour la femme. Le sein a une triple symbole. C'est le symbole de la féminité, c'est le symbole de la beauté, c'est le symbole érotique. Donc, vous avez tout ça, le symbole érotique, c'est une des zones érogènes du corps humain. Une belle poitrine, ça fait la fierté d'une femme. Donc, lorsqu'on fait une mastectomie, c'est une mutilation. La femme perd un peu ce qu'il y a de plus précis en elle. Donc, il faudrait vraiment un accompagnement. Et ça, c'est la politique qui devait être mise en place par les gouvernements.
Bien. Et par rapport au ministère, il demandait s'il y avait déjà des statistiques.
Non, comme tout à l'heure, j'ai dit,
il n'y en a pas encore. Hein.
Pour les statistiques, je crois qu'il y en a. Mm-hmm. Je ne suis pas en possession de chiffres, je ne peux pas m'hasarder à donner des chiffres quand je ne les ai pas. Peut-être qu'avec l'association qui s'occupe des cancers, nous pourrons avoir des chiffres prochainement.
À l'occasion de la fête de la musique ce jeudi 21 juin 2012, Radio Kapi vous propose les meilleurs concerts jamais diffusés à la radio.
En tête d'affiche, Jessie Matador. Love. Et d'autres talents de la musique.
La fête de la musique, ce jeudi 21 juin 2012, c'est sur Radio Kapi.
Comment prévenir et mieux lutter contre les cancers du sein? Docteur Isidore Betou, spécialiste en gynécologie obstétrique, et notre invité. Nicolas Do Kabuya nous appelle de Mbujimayi et Noko Kalonji de Kolwezi. Nicolas Do, bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur Pierrot.
Bon, c'est joli, Nicolas Do. On vous écoute.
C'est joli, Alban.
Allez-y.
Oui, j'ai une petite question. Oui. Nous savons qu'au Congo, on a des difficultés concernant l'encadrement des gens dans le domaine médical. Qu'est-ce qu'un patient peut faire si elle se retrouve devant un danger, manquant de moyens de se faire soigner? Et quelle méthode, quel produit qu'elle peut utiliser pour essayer de calmer la progression de sa maladie en attendant le moment opportun pour sa guérison? C'est ça ma question.
Merci Nicolas Do. Nous invitons également les femmes à nous appeler. Mesdames, vous nous écoutez à travers la République. Vous êtes à Kinshasa, à Kisangani, Lubumbashi, Bukavu, Gemena et ailleurs. Composez le 081-890-63-94. Nico Kalonji d'Ecologie. Bonjour.
Bonjour. D'abord, je voulais moi, c'est Nico Kalonji. Je vous appelle de Likassi.
Vous êtes plutôt à Likassi. On vous écoute, oui. Nico.
Alors, ma préoccupation est celle-ci. Par rapport à l'explication du docteur, je pense que c'est vraiment un mal qui m'a dit. J'ai perdu madame mon épouse, ça fait maintenant 2 ans. Mais par rapport à ce qu'elle a dit, l'apparition de ce tumeur-là sur le sein, mais quant à elle, c'était plutôt sur les clavicules, un peu loin du sein. Alors, c'est là débouché par des dégâts un peu néfastes jusqu'à ce que je l'ai perdu depuis 2010. Bon. Ma préoccupation est de savoir, est-ce que la prise de pilules peut être l'agent causal de cette maladie, ou par rapport même à l'explication qui dit que le cancer est une maladie héréditaire. Alors, que le docteur nous explique que l'héréditaire, c'est par rapport à quelle génération. Et cela peut s'arrêter comment? Parce que c'est une maladie héréditaire. Comment est-ce qu'on peut arrêter cette anomalie dans la famille? Et la question suivante est de savoir quelles sont les dispositions, ou je dirais la prévention à prendre par rapport à cette pandémie-là. C'est un peu ça, mon préoccupation.
Merci, Nico Kalonji. Docteur Isidore.
Merci. Monsieur Nico, bonjour. Je crois que, parce que vous avez dit, le cancer est apparu au niveau de la des clavicules.
De sa femme.
De sa femme. En fait, je crois qu'en ce moment, le cancer était déjà avancé au niveau des seins, et que ça, ce sont des adénopathies. Ce sont
Les
adénopathies, en fait, ce sont des ganglions. Nous avons des ganglions dans notre corps. Et lorsqu'il s'agit d'un cancer de sein, les ganglions se développent, deviennent un peu plus gros au niveau de l'aisselle et au niveau de la clavicule. C'est pour ça, lorsqu'on fait l'examen clinique, on parle de tous ces secteurs-là. Pour voir s'il n'y a pas des adénopathies.
Donc, c'est que le cancer de sa femme avait déjà atteint un stade très avancé.
Un stade avec déjà de si vous voulez, d'atteinte métastatique au niveau des ganglions. Donc, ce sont des ganglions. Je vais vous donner un exemple. Vous vous rappelez, lorsque parfois on se blesse au pied, et on a au niveau de l'aine, au niveau de la racine de la cuisse, une boule. Ce sont les ganglions. Donc, il y a des ganglions dans notre corps qui drainent aussi ce que nous appelons la lymphe.
Et à ce stade-là, c'est irréparable.
Non, ça dépend. C'est-à-dire que si le stade est déjà avancé, il y a d'abord des traitements. Il y a des traitements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a d'abord cet examen clinique. Si on trouve que c'est une masse qui est déjà avancée, c'est une tumeur qui est déjà avancée, il y a d'abord la radiothérapie. Vous savez qu'il y a la chirurgie comme traitement, la radiothérapie, l'hormonothérapie. Et dans la chirurgie radicale. Là, on peut commencer, par exemple, avec une radiothérapie pour pouvoir irradier, en quelque sorte brûler, pour réduire la taille de la tumeur avant d'envisager une chirurgie. Et puis, en ce moment, on va donner une hormone.
Je veux savoir si la prise de pilules peut être à la base de cela.
Les études qui ont été faites ont montré que l'exposition aux pilules, en fait, ce sont des œstrogènes, ce sont des hormones. Il y a des hormones,
des produits contraceptifs.
Il y a les œstroprogestatifs, c'est-à-dire il y a les pilules qui contiennent les œstrogènes et en même temps avec la progestérone. Mais les pilules à forte dose œstrogénique, on a à un moment donné incriminé cette exposition longtemps. C'est ainsi que, par exemple, le jeune, parmi les facteurs qui sont cités, c'est l'âge. Une puberté précoce expose la femme, donc cet enfant, à une exposition trop longtemps aux œstrogènes. Or, les seins sont nourris aussi par des œstrogènes.
Alors, ils disent que si le cancer est héréditaire, alors comment le faire pour le prévenir?
Vous savez, c'est comme les diabètes. Quand les diabètes étaient héréditaires, qu'est-ce qu'on fait? Ça dit qu'on soigne. On essaie de donner. Et il a demandé si on peut donner des médicaments avant. Ça dit que ça dépend du stade. Si c'est un stade, par exemple, de microcalcification, il n'y a pas de médicaments. C'est la radio qui va découvrir des microcalcifications. Qu'est-ce qu'on fait? En ce moment, on fait une tumorectomie. On enlève la zone où il y a des calcifications. On envoie en anatomie pathologie. Et c'est l'anatomie pathologiste qui répond pour dire c'est tel type de cancer, tel type de cancer, pour que le clinicien, en ce moment, puisse envisager le traitement approprié.
Voilà. Et puis Nicolas Do nous a appelé pour une bande à Katobi, si on est devant un malade, on manque de moyens, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ah, c'est très compliqué donc. Ça, il faut le dire, c'est pour, comme pour toutes les pathologies. Hein. Vous savez, nous sommes dans un pays, entre guillemets, sous-développé, nous n'avons pas encore tous ces moyens-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher les moyens pour pouvoir l'envoyer dans un centre où on peut le prendre en charge. Parce que, moi je ne sais pas, quel traitement on va lui donner. S'il est à un stade avancé, c'est qu'on va, parce qu'il y a des douleurs, on va donner des antalgiques, peut-être avec les anti-inflammatoires, pour pouvoir diminuer la douleur et tout ça. Mmh. Mais il n'y a pas un traitement approprié pour, si vous voulez, éradiquer le cancer. Les traitements, comme je l'ai dit, chirurgicales, radiothérapiques, hormonothérapie et tout ça. Donc tout ça, c'est ça. Donc il faudrait en ce moment, je ne sais pas comment faire, envoyer dans un centre.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Comment prévenir, mieux lutter contre le cancer du sein, docteur Isidore Bétou, spécialiste en gynécologie obstétrique et notre invité. Docteur Kipassa, vous nous appelez depuis Kikuit. Bonjour. Docteur Kipassa, vous êtes à Kikuit. Bonjour.
Bonjour, bonjour, je vous dis bonjour, docteur.
Salut,
cher confrère, voilà. Allez-y, docteur Kipassa.
Oui, c'est juste pour demander, je suis à l'intervenant. Il est connu que la détection précoce du cancer des seins joue un rôle déterminant pour le contrôle de cette pathologie.
Oui.
Et à qui ça, nous avons rencontré un radiologue qui a dit qu'il y avait un projet pour la vulgarisation
de
la détection précoce en utilisant des mammographies, des appareils de
mammographie. Oui.
Est-ce que l'intervenant peut avoir une idée où est-ce qu'on en est avec ces projets hein, pour vulgariser la détection précoce du cancer des seins comme ça se fait partout.
Oui.
Où les femmes vont dans un C4 chaque année pour voir s'il y a des stigmates de cette pathologie. Est-ce qu'il peut avoir une idée?
Oui, je vous réponds tout de suite. Il y a actuellement des centres où on fait des mammographies à Kinshasa. Enfin, je ne sais pas citer, il y a des centres, hein. Je vais vous donner, par exemple, des centres Nanda, ou bien chez Sigos, Dr. Bongo, il y a à l'hôpital général de Kinshasa, il y a des appareils de mammographes pour pouvoir faire ces radiologies-là, afin de détecter les cancers ou bien les microcalcifications. Donc, très tôt pouvoir, détecter. Mais c'est-à-dire que pour ça, il faudrait une politique gouvernementale. Ce n'est pas seulement les centres qui doivent exister. Ça, c'est la politique du gouvernement qui doit mettre une politique cohérente pour pouvoir sensibiliser, vulgariser la masse, la population, afin de faire ce dépistage. D'ailleurs, pour le cancer, par exemple, du col, on le fait. Hein, mais il faudrait une organisation bien faite pour pouvoir sensibiliser davantage les femmes à se faire dépister. Vous voyez, donc ça c'est
la charge du gouvernement.
Ça c'est la charge du gouvernement. Les experts ont fait déjà des propositions et je crois que confrère vous le savez, il y a eu plusieurs séminaires, plusieurs conférences et des propositions, des recommandations qui étaient déjà faites au niveau du gouvernement, c'est-à-dire à travers le ministère de la Santé publique pour pouvoir faciliter, vulgariser surtout le dépistage. Vous savez, chez nous, nous allons à l'hôpital seulement lorsque on est malade. Mais quand on est bien, on ne va pas consulter le médecin. Alors que le dépistage, c'est lorsqu'on n'est pas encore malade. On va se faire consulter, on fait les dépistages, par exemple pour les cancers du col, on fait les profils, on en va au labo, ou bien pour le cancer du sein, comme j'ai dit, la clinique, l'échographie et la mammographie.
Voilà. Bien. Salomon Oumelungi nous appelle de Mbanaka, bonjour.
Et bonjour.
On vous écoute, Salomon.
Oh, merci beaucoup au petit service. J'ai des questions à poser à notre invité. Bon, j'aimerais un peu savoir quelles sont les conséquences des cancers sur la fécondité de la femme atteinte. Et deuxièmement, j'aimerais savoir si la calcification des seins chez les femmes peut être l'une des causes des cancers.
Pardon.
Pardon, Salomon, vous dites la deuxième question.
La scarification des seins.
La scarification des seins, oui.
Ouais. Qui est à la base des. Et peut aussi être l'une des facteurs des faits de maladie.
Merci Salomon. Docteur Isidore.
Bon, pour la première question, sur la fertilité ultérieure, ou même, en fait, cette question devait répondre à la question que nous nous posons souvent, l'association entre cancer du sein et grossesse. En fait, le cancer du sein peut se développer avec une grossesse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des implications. Ça dépend du stade. C'est-à-dire, généralement, lorsque c'est un cancer méchant, on peut interrompre la grossesse au premier trimestre. Mais lorsqu'on est déjà avancé, l'idéal serait de faire accoucher la femme par voie basse, éventuellement. Mais, pour la fertilité ultérieure, il faudrait alors demander à la femme d'attendre au moins, pour un cancer moins méchant, 2 ans.
Mais est-ce que cette femme-là sera en mesure d'allaiter son bébé convenablement?
Pas le sein. Le sein malade, non. Peut-être l'autre sein peut allaiter l'enfant.
Mmh. Et il a parlé des seins scarifiés. Il y a certaines femmes qui font des tatouages, des signes au niveau de certaines coupures au niveau du
bon, sein. Aujourd'hui,
à l'époque, c'est très...
À l'époque, c'était ouais. Les scarifications, c'était un peu le mode de la beauté de la maman.
Ouais.
Aujourd'hui, nous voyons les tatouages partout, hein. Quand nous consultons, au niveau des seins, on peut mettre un petit cœur, je ne sais pas moi, des noms de
conseiller.
Ça dépend de ce qu'on a fait. Mais est-ce que ces scarifications ont une implication sur la survenue du cancer du sein? Ça, je ne saurais vous le dire, parce que là, il faudrait des études pour pouvoir dire qu'effectivement, c'est cette scarification ou bien c'est ce tatouage qui a été à l'origine du cancer du sein. Ça dépend de ce qu'on a fait, du matériel qu'on a utilisé pour pouvoir faire ce tatouage ou cette scarification.
Alors, docteur Isidore, pour terminer, on va dire, pour prévenir le cancer du sein, il faut le dépistage. Absolument.
Le dépistage. Le dépistage qui consiste à faire un examen clinique chez un gynécologue ou chez quelqu'un, à faire une échographie chez quelqu'un qui est expérimenté pour pouvoir déceler les signes de cancer et faire un examen très important, en fait, c'est l'examen capital, la mammographie.
Et puis cet examen-là coûte combien?
Ah, ça dépend du centre, ça dépend de l'hôpital. Je sais que la consultation, c'est comme toute la consultation. L'échographie actuellement, ici à Kinshasa, autour de 25 à 30 dollars. La mammographie, ça dépend du centre. Hein, c'est autour de 90 dollars ou 100 dollars, ça dépend. 80 à 80, ça dépend du centre. Donc,
c'est pas à la portée de toutes les femmes, non?
Hélas, rien n'est à la portée de tous avec nos conditions de vie. Hein. Vous savez, parfois même pour une consultation, nous avons des problèmes. Donc, mais je crois que s'il faut une politique bien organisée au niveau du gouvernement, je crois qu'on peut arriver à diminuer ces frais en orientant, hein, en mettant par exemple des centres de diagnostic. Hein, par exemple, en Europe, il y a des centres bien déterminés où on envoie des gens. J'ai eu la chance d'être dans un centre, le premier centre de sinologie en Belgique, qui était dirigé par le professeur Loriot. Donc, c'était le premier centre qui avait mon fêté, c'est 20 ans quand j'étais là. Donc, beaucoup de gens étaient drainés, orientés vers ce centre-là. Donc, ça, c'est l'État prend charge en tension, il y a la mutuelle là-bas. La mutuelle de santé, chacun prend souscrit sa mutuelle et la mutuelle paye. Il peut payer, lui, il peut payer 10%, la mutuelle paye le reste.
Donc, c'est il est important d'adhérer aux mutuelles de santé pour bénéficier des soins de santé.
Pour bénéficier des soins de santé. C'est pas encore le cas chez nous, c'est vrai que maintenant on en parle de temps en temps. Il y a, je crois qu'un confrère ou il y a même des organismes qui veulent maintenant instaurer les mutuelles de santé. Ça, c'est pris en charge par la mutuelle. Mm. Parce que ça coûte, hein.
Ça coûte, hein. Bien, docteur Isidore Betou, spécialiste en gynécologie obstétrique, merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Au café. Thank you.